R22 tout le monde. Antenne Jeff Clack.
Oui, donc pour présenter vite fait le collectif, dont le premier numéro de Jeff Clack est sorti en septembre 2014, il faut savoir que à peu près, enfin il est né plutôt 2 ans avant, le temps que le collectif émerge. C'était plutôt des gens, enfin c'est toujours des gens qui étaient issus d'horizons divers, on va dire. C'était bon, il y a pas mal de gens qui viennent de journaux indépendants, enfin, en tout cas qui écrivent dans la presse libre, dans des titres comme CQFD, Article 11 ou Revue Z. Il y a aussi pas mal de gens qui sont issus du milieu du livre, des libraires par exemple. Aussi pas mal de gens qui se rencontrent à travers pas mal de luttes sociales, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à l'époque, où il y avait un gros collectif sur Paris. Après, nous, on s'est vraiment réunis à la base, donc c'était plutôt au début 2012, donc sur Paris, sur un peu l'envie de faire collectif. Je pense que c'est un des premiers trucs qui nous a réunis. Et aussi un peu autour de, on va dire, repenser l'objet revue en tant que tel. On parle beaucoup de revue de critique sociale, CQFD, c'est un journal de critique sociale. Revue Z aussi se revendique comme tel. Bon, nous on a mis revue de critique sociale et d'expérience littéraire, dans le sens où on voulait aussi explorer, on va dire, enfin mobiliser d'autres formes que le reportage ou l'enquête ou les articles journalistiques classiques. Dans le sens où on va mettre aussi au sein de la revue pas mal de traductions, on va faire aussi appel à la bande dessinée, à du reportage et aussi à pas mal de formes littéraires, notamment de la poésie ou des nouvelles, avec deux particularités par rapport à ces deux formes-là. Par rapport à la forme littéraire, nous on a un partenariat, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais avec le master de création littéraire de Paris 8. Et par rapport à l'image, on a aussi un discours particulier qui est de dire l'image elle n'est pas là pour illustrer un article au fait. C'est vraiment une forme autonome à part entière qui vient au même titre qu'un article ou qu'un reportage ou un entretien nourrir la problématique qu'on travaille à travers chaque numéro. De façon plus, on va dire, politique ou plus éditoriale, on va dire. Ce qu'on dit un peu toujours, enfin la rengaine ou l'antienne qu'on sort à chaque fois, c'est de, on voulait pas prendre les choses frontalement, c'est-à-dire on voulait pas faire à chaque numéro, je sais pas moi, un dossier sur le nucléaire ou un dossier sur la question du racisme. On voulait un peu s'imposer à chaque fois une contrainte pour, ça c'est la phrase qu'on sort aussi à chaque fois, un peu slogan pour chercher le politique là où il se terre. Je crois que c'est ça qu'on dit, non? Ou déterrer le politique, ou enfin bref, essayer de chercher le débusquer le politique là où on l'attend pas. Et la façon dont on s'est donné une contrainte un peu oulipienne, on va dire, c'est que on s'est imposé pour chaque numéro, on a suivi une comptine, la comptine enfantine, trois petits chats. Donc ce qui a donné le premier numéro, marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, etc. Donc le premier numéro, je vais pas vous brosser en long de l'argent à travers tous les numéros. Donc le premier numéro qui est sorti en 2014, donc c'était Marabout. On a plutôt travaillé la question de, on va dire, des croyances, de la magie, un peu essayer de questionner les angles morts, les zones grises de, on va dire, la rationalité scientifique, pour faire simple. Le deuxième numéro, c'était Bout de ficelle. On s'est plutôt penché sur tout ce qui est tissu, vêtements, enfin la portée politique ou sociale du vêtement, de l'habillement, que ce soit dans la culture populaire mais aussi au sein de l'industrie de la mode, entre autres. Le troisième numéro, c'était celle de cheval. On a plutôt questionné les rapports entre hommes et animaux. Enfin, on a vite basculé dans humain, non-humain. Et donc on a plutôt on s'est plutôt questionné sur tout ce qui est toutes les questions de domestication, de dressage, d'élevage, qu'est-ce qui est sauvage, etc. Le quatrième numéro, c'était cheval de course, plus autour du jeu et du ludique. L'avant-dernier numéro, donc c'était course à pied. Donc la grande question qui traversait, pour faire simple encore une fois, c'était qu'est-ce qui nous fait courir, avec toute la question de l'évasion, de la fuite, de l'échappatoire. Donc là, il y a le nouveau numéro pied-à-terre qu'on va vous présenter juste après. Plus sur la fonction, enfin sur la façon dont on travaille, pardon. À chaque fois, on travaille vraiment une grande problématique. Enfin, à chaque fois, il y a cette comptine qui nous a imposé. Et à partir de là, notamment en assemblée générale, on va essayer de nager en grand collectif. C'est notre invité. Très discret.
Ouais, tu prends pied.
On essaye de travailler plusieurs questions qui vont ensuite structurer chaque, enfin tout le numéro dans son ensemble. On essaie d'avoir trois, quatre grandes questions transversales. Et à chaque fois, on travaille en petit comité, c'est-à-dire qu'on va avoir un comité éditorial qui va vraiment travailler sur les textes, un comité qui a travaillé que sur la question de l'image, un autre sur la question graphique. Et ah oui, particularité que j'ai pas dit non plus, on va avoir aussi un comité sonore. En fait, à chaque fois, juxtapose, enfin, avec chaque numéro, on va avoir aussi une pièce de création, plusieurs pièces de création sonore. Alors, pour ce numéro, c'est un peu particulier, on n'en a pas, mais à chaque fois, il y a un CD normalement qui est inséré avec la revue. Donc, il y a vraiment une équipe qui va travailler, qui va mettre en place des pièces sonores autour de la problématique. Et donc, en sachant que tous les comités sont pas imperméables, quoi. Chacun peut basculer d'un comité à un autre ou peut. Oui, peut-être dans un comité et dans l'autre aussi, quoi. Et en sachant qu'aussi à chaque fois, on peut faire appel à des personnes et on fait aussi un appel à contribution. C'est-à-dire que le collectif reste à chaque fois ouvert pour chaque numéro. N'importe qui peut venir faire une contribution, donc sonore, éditoriale, enfin rédactionnelle, etc., au numéro. Et pour terminer, plus sur les trucs très organisationnels au niveau des financements, on n'a pas de. Enfin, nous, on a démarré sans aucun capital de départ. On avait fait un appel à souscription. On a une petite poignée d'abonnés fidèles qui. Je crois qu'on en a une petite centaine, à peu près. 200? Ok. J'ai rien dit. Donc, on a 200 abonnés. Et après, on en reçoit des financements de deux fondations, donc qui sont Un Monde par tous et Michalski. Et depuis peu, on a le CNL. Ça, c'est tout récent. Et pour terminer, donc en plus de la revue, donc là on va vraiment parler de la revue, on a aussi un autre projet éditorial qui est le site internet, donc jeffclack.org, et on essaye à peu près de faire de publier un papier par semaine, même si là ces derniers temps on ne sait pas trop, on sait, ouais, là ça fait peut-être 2 semaines qu'on n'a pas publié, mais en tout cas c'est des choses qui sont, on essaye d'être un peu plus connecté à l'actu, c'est une envie qui a émergé il y a à peu près 2-3 ans au sein du collectif. On n'a pas pu échapper à ça. On voulait faire un temps long avec cette revue qui est plus ou moins annuelle, mais il y avait aussi la volonté de plus se connecter à l'actu. Et là, on va trouver aussi, encore une fois, pas mal d'entretiens, pas mal de traductions. En gros, c'est plutôt ça qu'on retrouve sur le site. Et je crois que c'est tout.
Du coup, je vais vous parler plus précisément du numéro Pied-à-Terre, qui est le dernier numéro. Donc, je vais vous raconter un petit peu la cuisine de comment naît ces axes dont parlait Mika pour les autres numéros. En fait, quand on commence à travailler autour du mot de la comptine, il y a plusieurs idées qui nous arrivent comme ça, un peu en vrac. Et là, cette fois-ci, il y en avait trois qui étaient l'idée de poser le pied-à-terre comme l'idée de poser le pied-à-terre pour la première fois quelque part, donc débarquer quelque part. L'idée de la résidence secondaire, bien sûr, et l'idée que poser le pied-à-terre, c'est aussi une. Enfin, c'est quand on s'arrête à vélo, par exemple, poser le pied-à-terre, faire une pause. Et donc là, on raconte comme si tout était très très bien magique et clair et tout ça, mais en fait, en cherchant un peu comment on allait relier ces trois choses-là, alors qu'on n'aime pas trop faire juste décliner le mot pied-à-terre de plusieurs façons. On s'est dit, ah tiens, mais ça a l'air de former un mouvement. Arriver, se poser, revenir. Et donc, c'est un peu ce mouvement-là qui nous a aidés à déplier les axes de réflexion pour ce numéro pied-à-terre. Et donc, dans cette idée d'arriver, on voulait s'interroger sur la conquête coloniale, qui va être sans doute un peu pas mal objet de la discussion ce soir. Mais peut-être pas que. En se demandant par exemple comment on devenait colon une fois envoyé au bagne, en Nouvelle-Calédonie par exemple, à travers un entretien avec une historienne qui s'appelle Isabelle Merle. Mais du coup aussi de l'autre côté, on voulait voir si on trouvait pas des récits de comment les autochtones, eux, ont fait avec cette arrivée. Donc on a trouvé l'histoire de production de cartes dans le Yucatan colonial, de cartes qui étaient commandées par les colons pour qu'eux puissent connaître le territoire, mais dans lesquelles il y a eu comme une espèce de contrebande de savoir, en fait, où les autochtones ont réussi, en fait, à faire passer des choses qui étaient adressées à leur communauté, à eux, et pas aux colons. Mais dans cette idée d'arriver quelque part, de poser pied à terre quelque part, et donc s'approprier un territoire, on voulait parler pas seulement de ces expériences coloniales, donc plutôt connotées négativement, mais aussi d'expériences d'appropriation territoriale plus politiques, militantes, par exemple dans l'ouverture de squats ou dans la revendication des sans-abri par rapport à un banc public, par exemple. Et donc pour ça, on a fait appel à plusieurs archives qu'on a publiées. Donc il y avait, on a publié une revue qui a été faite par un collectif de Montreuil qui parlait de leur expérience autour du CPE. En fait, il y a eu plusieurs squats qui ont été ouverts à Montreuil et revenaient un peu sur cette expérience après une expulsion très violente où il y a eu quelqu'un qui a perdu un œil. Et en fait, ils sont arrêtés un peu pour voir ce que la police avait attaqué ce jour-là, mais aussi ce qu'ils en avaient tiré et de cette expérience, quoi. Il y a aussi un autre texte qui était des archives d'un journal de sans-abri qui a été publié d'abord par la maison d'édition En Verticale dans un livre qui s'appelle Street Voice, qui est un très très beau livre. Et du coup, on a publié quelques extraits. Et pareil, un extrait du livre La Horde d'Or qui parle justement de sans-abri en Italie qui revendiquait le banc public comme un lieu de vie, quoi. Entre autres. Enfin, c'est un peu plus large que ça, bien sûr. Et en fait, en se demandant qu'est-ce qui se passe quand on arrive quelque part, on s'est dit que finalement, en tentant de prendre ses repères quelque part, on essaye de fabriquer un peu de quelque chose comme un chez-soi, qui est une notion qu'on n'a pas interrogée directement dans ce numéro, mais qui apparaît un peu en creux au cours de différents articles. Parce que, en fait, le pied-à-terre, c'est ce lieu où on se pose, et peut-être, pourquoi pas, on peut y réfléchir et revenir sur nos manières de faire, nos manières de vivre, etc. Et du coup, ça nous a donné envie de prendre du temps collectivement pour faire une autre enquête. C'est la première fois qu'on écrit autant collectivement. Donc au centre de la revue, il y a un petit dossier avec une dizaine de textes qu'on a écrits tous ensemble autour de nos manières de travailler, nos manières de comment on prend des décisions, comment on accommode dans la prise de décision nos contraintes matérielles et nos désirs. Et aussi nos façons de nous représenter, la façon dont on incarne des rôles collectivement, dont on les déjoue, etc. Dans cette idée aussi d'arrêter de réfléchir sur ce qu'on fait, donc de se poser, de prendre une pause, il y a eu aussi un article sur une grève de femmes paysannes sans terre qui, au milieu d'une occupation, décident de faire une grève de travail domestique pour réfléchir à leurs besoins spécifiques et pour pouvoir ensuite les revendiquer parce qu'ils n'étaient évidemment pas exactement pris en compte dans leur mouvement, quoi. Et enfin, dans cette idée de pied-à-terre, il y avait aussi cette histoire de résidence secondaire, ce lieu où on revient souvent, qu'on n'y vit pas, mais on transforme. En fait, les lieux où on revient souvent, où on a un pied-à-terre, quoi. Et du coup, on avait envie d'interroger à la fois qu'est-ce que le tourisme fait aux villes, avec un entretien avec des collectifs qui se battent contre la tourisation à Barcelone, en Bretagne et à Paris, mais aussi comment, pour pas non plus rester dans une lecture un peu manichéenne de cette histoire de tourisme, comment aussi nous on est transformés et traversés par les lieux où on revient souvent, donc avec un texte plutôt sensible d'une personne qui va souvent dans les Cévennes et qui est traversée par les liens qu'elle tisse là-bas, etc. Et c'est un assez beau texte plutôt littéraire sur comment on est transformé aussi par les lieux où on va souvent, quoi. Du coup, là, j'ai fait un peu un panel en accéléré du numéro. Et je vais passer la parole à Elvina qui va... Non. À Xavier, pardon. À Xavier qui va parler d'un article plus particulièrement.
Bonsoir. Moi, il y a beaucoup d'aspects dans ce numéro. Comme vous l'avez vu, je vais parler plus précisément d'un article qui est donc l'entretien avec l'historienne Isabelle Merle. Mais du coup, on cherchait à traiter cet axe-là du débarquement colonial, donc le geste de mettre un pied à terre à la fois dans un nouvel environnement, mais aussi dans une visée de conquête. Et du coup, en discutant justement avec Franz d'Anacarsis, qui est là, il m'a suggéré d'aller voir Isabelle Merle. Alors, au début, ce qui est rigolo, c'est que dans nos discussions, pour cet aspect-là, on a assez rapidement parlé de de chercher à pas forcément avoir que la vision du colon, d'essayer de renverser le regard, d'essayer de voir ce qui se passe en face et tout et tout. Sauf que là, en fait, Isabelle Merle, elle travaille exactement sur l'opposé, c'est-à-dire, elle, son sujet d'étude, c'est le colon français pauvre qui se retrouve à devenir un colon en Nouvelle-Calédonie pour différentes raisons. La première raison, c'est parce qu'il se retrouve au bagne, parce que à partir du milieu du 19e siècle en France, enfin disons que ça fait un petit moment qu'il y a un débat sur la peine, un débat qui était plutôt dominé par les tenants de la prison, mais qui bon quand même la prison ça aussi ses défauts, hein. Et du coup il y a une expérience, il y a l'expérience britannique de bagne, de colonie pénitentiaire, notamment en Australie, dont l'idée est la suivante. On commence à avoir un trop-plein de populations pauvres en Europe, dû au laisser-pour-compte de l'industrialisation, de l'avènement de la société industrielle. Et du coup, il va suffire de déverser ce trop-plein à l'opposé de la planète et de confier à ces gens, hein, sans trop leur laisser le choix, de faire le sale boulot, en gros, du début de la colonisation. Donc défricher le terrain, en gros. Donc ça, c'est l'idée qui a été appliquée notamment en Australie, qui sert un peu d'exemple lors du débat en France, et qui mène du coup les politiques français à adopter le législateur français a adopté la loi de transportation en 1854, qui va du coup définir une peine d'exil au bagne. Pardon. Alors sur les dates, il y a la Guyane, mais il y a la Nouvelle-Calédonie qui arrive assez rapidement. Et du coup, l'idée est la suivante, c'est que pour une peine en dessous de 8 ans, on oblige la personne du coup à faire sa peine sur l'île et on double sa peine. C'est-à-dire que si la peine est de 4 ans, pendant 4 ans, il va être au bagne. Et pendant 4 ans, il ne peut plus rentrer en France. Et si la peine est au-delà de 8 ans, il ne peut plus jamais rentrer. Donc on s'assure que les gens qu'on envoie là-bas restent suffisamment longtemps. On en envoie beaucoup parce qu'on définit des nouveaux délits et des nouvelles peines. Et du coup, on envoie les gens là-bas. Nous, ce qui nous intéressait, ce n'est pas tant ce débat-là, qu'est-ce qui se passe quand un petit colon, comme les appelle Isabelle Merle, c'est-à-dire, elle entend par là, un colon issu des faubourgs, pauvre, qui a très peu de capital financier, débarque là, se voit promettre une terre s'il se comporte bien au bagne, ou même plus tard, parce qu'il y aura une colonisation de colons libres, se voit promettre une terre et doit devenir en fait un petit propriétaire terrien, avec des gens à ses ordres. Et qu'est-ce qui se passe pour cette personne, du coup, qui se retrouve à le total opposé de la planète, dans un environnement qu'il ne connaît pas, qu'il découvre, sur lequel il essaye de calquer un peu ce qu'il connaît déjà, en fait, en France. Hein, lui, il connaît certaines cultures, il ne connaît pas forcément comment se passent les cultures en Nouvelle-Calédonie, développées par les Kanaks. Qu'est-ce qui se passe, justement, par rapport... quelles sont les interactions avec la société Kanak, qui est déjà présente, qui est assez rapidement relégué dans des réserves, à qui on vole les terres, évidemment, et sur lesquelles on installe donc ces colons. Donc c'est ce qui nous intéressait, c'est ce qui l'a intéressé, elle, parce qu'en fait, disons que la fabrique de l'indigène va de pair avec la fabrique du colon. C'est-à-dire que pour avoir des indigènes, il faut quelque part qu'en face, il y ait d'autres gens qui se distinguent, en fait, et qui se distinguent par une position sociale différente, par la possession des terres et par le fait qu'ils ont autorité sur eux dans le travail. Donc c'est ça qui nous a intéressés. J'aimerais bien juste vous lire un petit extrait. Alors, disons, il y a eu ces colons qui étaient envoyés via le bagne, mais en fait, il y a eu un peu plus tard, jusqu'au tout début du 20e siècle, à la fin du 19e, tout début du 20e, ce qu'on a appelé les colons feuillés, qui sont des colons cette fois libres, donc des gens à qui on promet une terre, qui ne sont pas condamnés, et à qui on promet une terre pourvu qu'ils veuillent bien aller à l'opposé, de l'autre côté de la terre, pour essayer de les cultiver. Donc la question à l'entretien, finalement l'expérience des colons feuillés est un échec. Réponse, Disons plutôt que ça n'a pas duré très longtemps. Le ministère des colonies a soutenu cette stratégie une vingtaine d'années, tout au plus, jusqu'au tout début du XXe siècle, où s'enchaîne le départ de Feuillée en 1902 et une crise économique dans les années 1903-1904. Pour beaucoup de colons feuillés, l'installation est très difficile. À cet égard, je trouve le témoignage de Ludovic Papin extraordinaire. Cet homme est plutôt sympathique, un artisan ouvrier qui aurait eu un tout autre destin s'il était resté en France, mais qui décide de partir, on ne sait pas trop bien pourquoi, le goût pour l'aventure sans doute. On est à la fin du 19e siècle. Il arrive à Ouéava, près de Yangen, où les Kanaks sont restés longtemps puissants. Il se voit attribuer un lopin où il y a plein de cocotiers, et il trouve extraordinaire de bénéficier aussi facilement d'arbres en pleine maturité. Il ne veut pas comprendre que c'est le résultat du travail des Kanaks qui vient d'être expulsé. Mais tout n'est pas simple, pour lui non plus. À l'embouchure de la rivière est installé un ancien déporté de la commune, qui a été de la sociale, mais qui, une fois en Calédonie, semble avoir oublié tout ça. Ce dernier fait payer très cher le passage des produits que le colon achemine par la rivière pour les charger sur le tour de côte, le bateau qui ravitaille les centres de brousse en cabotant le long des côtes. S'ajoute à ça les moustiques, le corps souffrant sous le coup du travail et de la chaleur, et puis l'extrême isolement dans lequel Papin se trouve, dans la mesure où les seuls liens qu'il peut nouer sont forcément avec les Européens et Européennes, et son premier voisin colon, seul interlocuteur possible, est à 600 mètres de chez lui, ce qui est beaucoup dans ses vallées. Il voit bien les Kanaks s'agiter autour de lui, sans rien comprendre au monde qui l'entoure, alors même que ce dernier est en grande difficulté. Le gouvernement procède au cantonnement et à la délimitation des réserves indigènes, en obligeant les Kanaks à quitter leurs terres pour laisser les colons s'y installer. Il n'a aucune empathie. Il est insensible au fait qu'il est sur une terre Kanak qui vient d'être spoliée. Il ne voit rien, si ce n'est des gens qui se promènent beaucoup. Il rencontre même le chef Aman et trouve que c'est un garçon tout à fait intelligent et sympathique. Les Kanaks, en réalité, sont en train de faire circuler les monnaies de guerre, messages visant à créer les alliances nécessaires à la préparation d'un conflit. Et Papin, de déplorer le fait que les Kanaks se promènent innocemment et ne travaillent pas assez, lisant les événements qu'il observe à travers une grille déréalisante, ce qui lui vaudra d'être tué par les Kanaks, tout comme ses voisins et voisines, le couple Grassin, lors de l'insurrection qui explose dans le Nord en 1917. Donc là, on a un exemple de grille de lecture voilà, complètement déréalisante. Il interprète vraiment ce qu'il voit à travers une grille préconçue, qui d'ailleurs est soigneusement préparée par l'administration, par exemple, les Kanaks sont feignants, ne sont pas bons travailleurs, et du coup, lui, il croit juste qu'ils se promènent quand il les voit passer. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur cet article, et je pense que je vais laisser la parole à Elvina.
Bonsoir. En fait, il y a quelque chose qu'on aime bien faire quand on fait des présentations de numéros. C'est pas simplement vous présenter l'objet en tant que tel, mais aussi développer un peu les pistes qu'il cultive. Et donc là, ce soir, en fait, on a proposé à Samir Boumediene de venir nous rejoindre. Samir Boumediene est historien des sciences. Il se trouve que tu as publié un livre qui s'appelle « La colonisation du savoir » qui est paru en 2016 aux éditions des Mondes Affaires. C'est un livre qui est issu de ton travail de thèse, la thèse que tu as soutenue en 2013. On a voulu t'inviter parce que c'est un livre que certains d'entre nous avaient en tête lorsqu'on a construit le numéro, et notamment Xavier, par exemple. Et le livre porte en fait sur la quête du savoir liée aux plantes, telle qu'elle s'est élaborée dans les contextes coloniaux au cours de l'expansion européenne entre le 15e et le 18e siècle, en Amérique du Sud notamment, parce que c'est ton terrain de recherche. Et donc Samir Boumediene revient sur l'appropriation des savoirs liés aux plantes médicinales comme le gaillac, le quinquina, et les formes que cette appropriation a pris et comment cette appropriation en fait est un aspect de la conquête coloniale. Et donc ce qui est en jeu, c'est une conquête de connaissances. Et donc le mot de conquête, l'idée de la conquête de connaissances est important parce que pour les colons, il y a l'idée d'une maîtrise d'un territoire, la possibilité d'en tirer profit et que cette maîtrise-là et ce profit-là implique en fait un lien spécifique aux colonisés. Il faut que les colonisés transmettent en fait des informations pour rendre possible cette maîtrise du territoire et le fait d'en tirer profit. Et comment est-ce que cette transmission de savoir est rendue possible, quelle forme elle prend et qu'est-ce qui est transmis et qu'est-ce qui n'est pas transmis aussi. Depuis la publication de ce livre, je crois que tu travailles sur l'histoire des sciences d'un point de vue plus occidental, mais je ne vais pas m'aventurer plus. Mais donc là, l'idée avec Samir, c'est de travailler les résonances entre donc pied à terre et donc ton travail autour de la question du devenir colon dont a parlé Xavier, mais pas simplement. Et donc voilà, Samir se propose en fait de tirer ces fils. Voilà.
Tout d'abord, merci infiniment pour l'invitation qui me donne l'occasion de passer par Toulouse, et pour moi c'est toujours un plaisir. Et donc bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, ce qui est raconté dans le numéro de Jeff Clack peut faire écho aux thématiques du livre, mais ça fait aussi écho à des recherches sur un autre sujet, mais qui est très lié, qui est l'histoire des questionnaires. Donc j'ai trouvé ça très drôle, parce que quand on en avait parlé, tu m'avais pas dit, je crois, qu'il y avait le questionnaire de... Enfin, une réponse au fameux questionnaire de Marx, de 1880, dans l'auto-enquête, voilà. Et en plus, bon, quand j'ai lu le dossier sur l'auto-enquête, effectivement, il y a toute une réflexion, justement, sur les effets de l'enquête. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une discussion autour du sous-titre Revue de critique sociale et d'expérience littéraire. D'expérience, hein, c'est ça. Littéraire, pas d'expérimentation. Et il n'a pas disparu. Hein, donc je pense qu'il faudrait qu'on revienne, hein, sur la présence-absence de ce... Ben, oui. Mais donc il n'y a pas le mot enquête sociale, ce qui n'est pas inintéressant. Et Z, c'est enquête sociale ou pas ?
Enquête itinérante.
Et je me souviens que quand Marabout est sorti, il y avait un questionnaire qui accompagnait Marabout, et il y avait la question à qui profite l'enquête sociale, si je me souviens bien. Donc ça fait partie des questions qu'on pourrait poser. Donc voilà, ouais, moi je me retrouve en plein. Enfin, j'ai pas eu mal à mettre pied dans ce numéro. Et ce que je vous propose du coup, mais il faudrait que ce soit interactif, donc je vais parler et il faut me couper la parole, que ce soit voilà le plus pluraliste possible. Il y a un micro en plus qui traîne, donc voilà. C'est de jouer un peu sur cette dialectique prendre pied, perdre pied, parce que c'est très intéressant. Et d'une part, et puis d'autre part, de revenir sur cette question en fait de l'enquête à travers une thématique qu'on retrouve à la fois dans le dossier et hors du dossier, qui est voilà, les enjeux qu'il y a derrière la description des manières de faire, qu'on retrouve évidemment dans votre auto-analyse, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres passages, je pense notamment d'autres articles, je pense notamment à ce qui est fait dans l'entretien avec la cinéaste ou au récit du saisonnier. C'est très très intéressant. Et j'ai peut-être commencé par ça. Donc sur le premier axe, prendre pied. Comment on fait pour prendre pied, et donc en tissant des liens entre à la fois mes travaux, mais aussi des lectures en histoire des voyages, en histoire des sciences, etc. Et ce qu'on retrouve dans les différents articles, il y a quelque chose en fait qui est assez significatif, c'est que en tous les cas, l'histoire de ces expéditions, donc les plus connus, c'est Cook, La Pérouse à la fin du XVIIIe siècle, Bougainville évidemment, et moi j'essaie d'en étudier d'autres qui arrivent bien avant. Il y en a notamment une qui est très intéressante, c'est celle d'un médecin qui part au Mexique, qui s'appelle Francisco Hernandez, et dont le travail a consisté à poser pendant une dizaine d'années des questions aux Indiens et aux Indiennes. Et il n'est pas impossible que les traces de ce passage se retrouvent dans un codex maya dont vous parlez beaucoup, enfin dont parle beaucoup à des articles que vous avez traduits, qui s'appelle le Chilambalam de Chumayel. Et ce qui est frappant dans l'histoire de toutes ces explorations, c'est que à première vue, enfin vue de très loin, on aurait tendance à les associer à la thématique du voyage et de l'aventure. Ce sont des aventuriers qui partent, qui font des expériences, etc. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, et plus le modèle de l'expédition scientifique se formalise, plus ce caractère se renforce, c'est que les personnes qui partent en voyage doivent suivre des routines. Suivre des routines, ça veut dire calquer... Enfin, c'est-à-dire avoir des régularités, improviser le moins possible. c'est-à-dire pas avoir recours à des choses qu'on ne connaît pas, faire en sorte que le programme de la journée soit fixé le plus précisément possible. Et c'est pour ça que, de manière très, très concrète, hein, les cales des bateaux sont remplies de vivres qui sont paramétrés de façon quantifiée pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de famine, pas de surprise. Donc on prend évidemment un peu plus que nécessaire au cas où il y ait une surprise. Donc vraiment, ce ne sont pas des aventuriers. Ce sont des gens qui calculent tout. Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait le parallèle avec l'histoire du saisonnier qui est dans sa caravane et qui bouge de lieu en lieu, en fait, il nous raconte une routine. Il est très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé cet article. C'est le deuxième, je pense. Mais je ne sais plus dans quel passage précisément il raconte sa routine. Ça fait déjà vraiment partie des premières choses sur la manière de prendre pied. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit d'aller dans un espace qu'on ne connaît pas, mais pour l'habiter, c'est y imprimer un certain rapport au temps. Donc, un certain rythme. Ça, je pense que c'est un enjeu qui est absolument crucial, cette politique du rythme, cette politique du temps, pour les personnes qui aujourd'hui accueillent des... Alors, j'aime pas du tout ce mot, migrants, migrantes, je trouve que ça va pas du tout. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui ont une autre idée pour les désigner. Comment ? Personne en exil, ça peut marcher, effectivement. Donc, mais c'est effectivement, personne en exil, c'est mieux que exilé. Donc, effectivement, personne en exil, je vais prendre ça si tu m'y autorises. Donc, pour les personnes en exil, il y a l'histoire de Utopia 56, qui c'est une structure d'accueil qui est une sorte de... Corrigez-moi si je me trompe, puisque je présente le numéro que... Mais bon, voilà, c'est une lecture. Donc, Utopia 56, donc c'est à Paris, et ça fonctionne sur un principe qui est effectivement celui, en fait, de la... Comment dire? De la réduction maximale des surprises. On peut dire ça, il me semble. C'est-à-dire que pour accueillir un certain nombre de personnes qui, par exemple, sont autour du boulevard de la Chapelle, cette structure a dans une base de données un certain nombre de personnes qui sont prêtes à accueillir des personnes en exil pendant plusieurs nuits. Une, deux, je crois qu'il y a une limite, je ne me souviens plus. Une seule nuit, donc voilà. Donc c'est pour c'est une sorte de l'hébergement d'urgence, et tout ça doit suivre un protocole. Donc pas d'improvisation. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré l'existence de ce protocole, les différents cas qui sont évoqués dans l'article montrent qu'il y a une diversité très très grande de possibilités. Et là, on passe à un deuxième temps. C'est comment est-ce que malgré la volonté de réduire les surprises, le jeu des interactions sociales fait un monde, produit localement un monde. Donc, alors après, évidemment, je vais parler évidemment de la façon dont la production de ce monde peut avoir des visées coloniales, mais pour le moment, je veux vraiment m'intéresser à voir comment ça se passe. Donc, on habite un temps, et puis ensuite, on habite avec quelqu'un d'autre. Donc, on habite avec quelqu'un d'autre, et ça peut prendre des formes très différentes. L'article est intéressant parce qu'il montre qu'il y a des sortes de complicités qui se nouent dans un temps qui est, en fait, effectivement, très réduit, hein, 23h, 7h du matin. Mais la manière dont se nouent les complicités, c'est plus souvent, j'ai l'impression, au petit déjeuner. L'idée, c'est de proposer une sorte, on peut appeler ça une prestation qui est gratuite, mais c'est une prestation, et donc il faut avoir un accueil qui obéit à certaines exigences, et ça va de pair avec le petit déjeuner, et donc là, il se passe quelque chose. Donc ça peut aller à de la déception, hein. Bon, la personne, on n'a pas réussi à lui parler, ou ça n'a pas été au-delà de quelques échanges, à quelque chose qui est beaucoup plus... beaucoup plus riche, et c'est effectivement une expérience que... Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été impliqués de près ou de loin dans l'accueil de personnes en exil, mais c'est effectivement c'est quelque chose qui est très, très frappant, quoi. C'est la diversité des expériences d'une part, et aussi, donc là, ça peut faire le lien avec un courant de la sociologie qui est assez intéressant, qu'on appelle l'interactionnisme. C'est comment est-ce que des gens ont des attentes extrêmement différentes, et qu'est-ce qui se passe lorsque des gens qui ont des attentes très différentes finissent par se croiser. Et donc là, il y a effectivement, pour les gens qui font des études de sociologie, il y a des tas de terrains qui peuvent être investis, avec tout ce que ça pose comme problème de qualifier ça de terrain, évidemment, puisque ce sont d'abord des expériences de vie, hein, ce sont des existences qui sont concernées par ça. Et là où on voit justement cette petite dialectique opérer, c'est qu'on... Enfin, ce qui est intéressant, c'est que on fait tout pour faire en sorte que la prise donc de contact d'une part, mais que aussi voilà, le simple fait de venir habiter chez quelqu'un pendant une nuit soit le plus facile possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce qui va le plus déstabiliser les personnes, et notamment les personnes qui accueillent, c'est lorsqu'il se passe quelque chose. Donc c'est la possibilité de perdre pied, la possibilité de se risquer à quelque chose qui est en fait pas une rencontre, parce que c'est un terme qui est aujourd'hui très galvaudé, et je pourrais vous expliquer en détail pourquoi est-ce que je déteste ce mot, mais en tous les cas, voilà, une interaction, une confrontation qui peut mener à une redéfinition de soi. Et ça peut permettre de comprendre ce qui se passe avec ces fameux voyageurs et parfois certaines voyageuses. Il y a le cas de Jeanne Barret qui voyage à incognito à la fin du XVIIIe siècle sur un navire. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils veulent évidemment prendre un certain nombre de ressources en se transformant le moins possible. Alors, voilà, comment... Pour prendre ces ressources, il faut prendre pied, et donc on va poser des questions, on va agiter tout ce travail qui est à la fois politique et savant d'inventaire. C'est très important, travail d'inventaire. Cartographie, donc là il y a beaucoup d'articles qui parlent de cartographie, même de fausses cartes. Donc l'article sur la cartographie Maya, ce serait bien qu'on y revienne parce qu'il est... Il montre justement les tensions qu'il y a dans la production savante des espaces colonisés. Donc, inventaire, cartographie, catégorisation, ça c'est super important. C'est la possibilité d'assigner des identités aux plantes, évidemment, mais aussi aux êtres humains qu'on rencontre sur place, et de développer une grammaire de la distinction. Donc ça, c'est vraiment comme ça que les colons prennent pied. Donc ils prennent pied en apposant des catégories, mais aussi en récupérant les catégories sur place, parce que les catégories qui viennent directement du monde des colons, très souvent ne sont pas opérantes. Et dans la nécessité de passer par les catégories locales, eh bien, se joue la possibilité de la transformation. Et l'exemple, moi, je trouve le plus beau de ça, mais il n'est pas dans le numéro, il est dans le livre. Hein, c'est celui de Francisco Hernandez dont je parlais tout à l'heure, puisque c'est quelqu'un qui, en gros, arrive avec la ferme intention d'intégrer les plantes de toute l'Amérique à une histoire naturelle qui est l'histoire naturelle la plus importante en Europe à l'époque, qui est celle de Pline, donc qui est écrite au premier siècle après Jésus-Christ, pas que je dise de bêtises, 79 il me semble, et qui est retraduite, recommentée, etc. tout au long du XVIe siècle. Donc il se dit simplement, ben voilà, la structure de Pline, elle marche bien, je vais prendre des plantes mexicaines et je vais les ajouter là où elles ne sont pas, et éventuellement je vais même résoudre des cas d'interprétation compliquée, puisqu'il y a tout un ensemble de plantes dont Pline parlait qui n'ont pas été identifiées au XVIe siècle, et Hernandez se dit éventuellement on pourrait les retrouver au Mexique. Et ce qu'il fait en arrivant sur place, donc c'est qu'il essaye de prendre pied. Donc il est accompagné, d'ailleurs, c'est pas inintéressant, d'un cartographe. Il est accompagné, évidemment, c'est une question cruciale, d'interprètes qui vont l'aider à poser des questions et parfois aussi mal lui traduire les réponses. Donc là, une fois de plus, ça ressemble beaucoup à la tension qu'on retrouve avec la cartographie maya. Et puis, ce qu'il va faire progressivement, c'est qu'il va apprendre la langue, parce qu'il se rend compte que les plantes qu'il étudie ne sont pas en fait des êtres végétaux dont on peut, qu'on peut saisir comme voilà, des objets. C'est-à-dire que ces plantes, elles appartiennent à un monde, donc c'est un monde qui est un monde plein. Et donc ça, c'est extrêmement important. Toutes les expériences coloniales, c'est très bien montré par l'entretien avec Isabelle Merle, mais pas seulement. C'est qu'une expérience coloniale tend à produire une mythologie selon laquelle l'arrivée du colon, à son arrivée, le colon rencontre un monde qui est vide. Et bien, c'est jamais comme ça. Donc, il y a un monde qui est plein, et donc Hernandez s'en rend compte, et donc pour étudier les plantes, en fait, il se rend compte que il faut aussi qu'il étudie le langage dans lequel ces plantes sont dites. Pour comprendre les propriétés des plantes, il faut qu'il s'intéresse du coup au rite des personnes avec lesquelles il parle. Donc il va faire un traité sur l'histoire et les antiquités, donc si vous voulez, les coutumes des Indiens du Mexique. Et en apprenant leur langue, il va se rendre compte que justement leur manière de catégoriser le réel, c'est-à-dire leur manière de nommer les plantes, est du point de vue des objectifs de l'histoire naturelle de l'époque 100 fois plus pertinente que celle qu'il a chez Pline. discipline, opère une catégorisation des plantes, si vous voulez. Il les distingue suivant leur, grossièrement suivant leur forme, arbre, arbuste, plante, enfin herbe. Et puis surtout la classification qui opère chez lui, c'est une classification en fonction des propriétés des plantes. Les arbres qui portent des fruits, les arbres médicinaux, les arbres qui ont des odeurs, qui peuvent être utilisés en teinture, etc. Ce qui fait que des plantes qui ont des morphologies très voisines peuvent se retrouver dans des livres très, très différents. Alors que ce qu'il constate en parlant avec les nahuatl et surtout en apprenant le nahuatl, c'est que le nom des plantes en nahuatl applique déjà une classification de type morphologique. Et bon, je vous le fais en vitesse, c'est un peu grossier, mais ça ressemble à ça. C'est que, en gros, le suffixe des noms désigne ce qu'on appellerait un genre aujourd'hui et le préfixe serait l'espèce. Donc il y a un passage qui le montre très bien puisqu'il parle des palmiers. Et en fait, bon, on voit bien que le mot qui veut dire palmier en nahuatl, c'est coyoli. Et suivant le préfixe, vous avez différents types de palmiers. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu d'intégrer le Mexique à l'histoire naturelle de Pline, eh bien, il va écrire une histoire naturelle séparée qui va classer en suivant la taxonomie nahuatl. Et vous voyez l'ambiguïté, c'est que la taxonomie nahuatl lui permet de prendre pied dans le monde des Mexicains. Elle lui fait perdre complètement pied puisque dans le monde espagnol, puisque il va envoyer un texte qui est absolument incompréhensible, absolument illisible, et il vit effectivement une crise qui est à la fois épistémologique, linguistique, cognitive, et qui est en définitive une crise existentielle. Et ça, c'est très intéressant puisque c'est le colon qui est colonisé, et c'est évidemment pas systématique, mais c'est une possibilité constamment présente dans ce type de voyage. Alors, bon, c'est dommage que je n'ai pas pu en parler dans le... Mais ça va bien. Enfin, je pense qu'en tous les cas, il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là dans le numéro. Donc, prendre pied, perdre pied, et perdre pied jusqu'à quel point. Donc là, il y a un autre exemple que j'aime beaucoup. C'est un naturaliste dont le nom est connu. C'est Joseph de Jussieu, qui lui part au Pérou dans les années 1730-1740 et qui véritablement devient fou. Mais fou au sens... joli, beau et poétique du terme, puisqu'il finit par envoyer des lettres qui n'ont aucun sens, qui sont un mélange de français et d'espagnol, où il fait des lettres d'amour qui sont aussi des lettres de haine. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est perdu dans des forêts pendant 40 ans, qu'il a quitté une femme qu'il aime, qu'il a quitté des frères qu'il aime et qu'il ne les voit pas, et qu'en même temps, il est absolument obsédé par la nécessité de produire du savoir sur cette partie du monde que les naturalistes connaissent très mal. Et donc, voilà comment est-ce qu'il finit par se perdre dans un enfer, une sorte d'enfer vert. Ses lettres sont vraiment très belles. Il retourne à Paris et en fait, il est pendant 8 ans quasiment, il est constamment chez lui, quasiment toujours alité, et donc là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on voit bien comment est-ce que lorsqu'il y a une véritable transformation, eh bien, la perspective du retour devient en fait la perspective de la mort. Et le cas d'Hernandez le montre très bien, c'est que le moment où il quitte le Mexique, juste avant de quitter le Mexique, la ville de Mexico est frappée par une épidémie qui tue au moins 50% de la population indigène dans la ville. Et c'est vraiment au milieu des cadavres qu'il doit penser à la perspective du retour. Et pour lui, l'enjeu central, c'est de pouvoir ramener son matériau à bon port, parce qu'il a peur de mourir, parce qu'il a peur qu'on lui vole, etc. Et c'est effectivement ce qui va se passer. C'est-à-dire que son matériau arrive, et quelqu'un va lui voler d'une certaine manière, puisque le roi, qui ne comprend rien à son manuscrit, demande à quelqu'un d'autre de le traduire, pas de le traduire, mais de le réorganiser complètement, de le résumer pour en faire un manuscrit beaucoup plus court. Donc il est dépossédé de son œuvre, qui en plus est enfermé à double tour dans un coffre, qui finit par brûler, et du coup l'œuvre originale est complètement perdue, avec 4000 illustrations de ces artistes scribes mexicains, qui ressemblent beaucoup à ceux qui ont réalisé la carte Maya. Même s'ils viennent plutôt du monde nahuatl, c'est ce même type de dynamique qu'on retrouve. Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur cette perspective du retour? Parce qu'en fait, la manière dont le voyage savant, mais aussi ce qu'on va commencer à appeler, surtout à partir du XVIIIe siècle, même si c'est une pratique qui existe dès le XVIe siècle, donc c'est le tourisme, la manière dont ça se développe, c'est qu'on part, mais pour revenir. C'est-à-dire que le départ est toujours paramétré par le retour, et donc il faut boucler la boucle. C'est pas toujours possible, hein. Vous savez que Magellan meurt, hein. Donc c'est pas lui qui achève le premier voyage de circumnavigation. Donc la perspective du retour, c'est ce qui va permettre effectivement si les bateaux ne reviennent pas, l'emprise politique que détermine la colonisation n'a pas lieu. Il faut que les bateaux reviennent. Et c'est d'ailleurs tout le gros problème de cette phase de voyage qui commence fin du XIVe, début du XVe siècle, le long des côtes de l'Afrique, c'est qu'ils arrivent à trouver des routes pour descendre. C'est beaucoup plus complexe de retrouver des routes pour remonter. Et donc les Portugais inventent un système qui est celui de la double volta, c'est-à-dire qu'ils longent les mers où ils ont des vents favorables pour descendre, mais ils ne savent pas comment remonter le long des mers, et donc ils vont trouver des vents favorables en allant du côté de la haute mer. Et ils font des boucles, et c'est ce qui leur permet de revenir. Donc l'obsession, en fait, ce n'est pas d'aller quelque part, c'est d'aller quelque part pour pouvoir revenir. C'est une très vieille histoire, hein. Vous pouvez penser évidemment à Ulysse, etc. Mais je n'ai pas envie de parler d'Ulysse ce soir, je préfère parler de Shakespeare, parce que l'histoire de la tempête, c'est exactement ça. C'est Prospero qui est perdu sur une île, et qui veut en fait tout faire pour revenir à Milan. Donc je ne sais pas si c'est une pièce de théâtre qui vous est connue. Bon, mais ça est compliqué à résumer parce qu'il y a plein d'arcs narratifs qui se mêlent, et puis j'ai plus trop en tête les noms des personnages secondaires, mais en gros vous avez le duc de Milan, le duc légitime de Milan, donc c'est toujours cette histoire de la comédie italienne, c'est un personnage légitime qui soit il ne le sait pas, soit il le sait, a été mis sur la touche, et il va falloir qu'il retrouve son trône. Hein. Et donc là, vous pouvez voir à quel point, évidemment, toutes les pièces de théâtre de Shakespeare ont inspiré, par exemple, Game of Thrones, mais je ne vais pas vous spoiler la fin. Bref, donc Prospero, duc de Milan, qui se fait avoir par son frère. Son frère, c'est Antonio, dans mon souvenir. Qui va usurper son trône. Donc il est exilé sur une île. Il y reste pendant 12 ans. Et sur cette île, donc c'est un monde qui est vide, mais qui est un peu plein. Vide parce que bon, c'est très facile pour Prospero d'y prendre pied. Vous allez voir pourquoi. Et en fait, il va y rencontrer un personnage qui s'appelle Caliban. Donc Caliban, ça peut-être que ça dit quelque chose. Hein. Il est là, je l'ai vu, Caliban et la sorcière, donc de Silvia Federici, qui est citée aussi dans l'article sur le travail, sur les grèves des paysans en Amazonie. Donc c'est un bouquin qui est très connu, Caliban et la sorcière. Donc Caliban, c'est le fils d'une sorcière qui s'appelle Sycorax. Donc c'est un personnage hideux, barbare, brut. Donc c'est vraiment la figure de l'indigène ou du colonisé sauvage. Et donc Prospero arrive sur l'île avec sa fille Miranda qui est très très belle. Et donc le problème c'est que Caliban se comporte très mal avec Miranda puisqu'il en est amoureux, qu'il essaye de la violer, etc. Bon. Donc il y a même une optique un peu, si vous voulez, c'est pas intersectionnel, mais c'est vrai que là il y a quelque chose, il y a une sorte de complexité, on ne sait pas quelle partie on doit prendre dans l'affaire entre Caliban et Miranda. Donc, il y a Caliban et puis un autre personnage sur l'île qui est beaucoup moins négatif, c'est Ariel, c'est ça ? Voilà. Ariel, donc c'est un esprit qui a des pouvoirs magiques. Et là, c'est là que vous allez voir l'importance de l'aller et du retour, c'est qu'il est exilé sur cette île pendant 12 ans, Prospero, mais il y a le frère du roi de Naples qui va aider Prospero en lui envoyant des vivres, en créant une route avec un bateau qui vient et qui repart, et qui notamment lui apporter des livres. Et donc grâce à ces livres, donc là il y a toute une réflexion sur, si vous voulez, l'astrologie et l'alchimie au XVIe siècle. Hein. Shakespeare est très intéressé par ce genre de choses. Et donc Prospero, en fait, il va pouvoir manipuler les forces de la nature et prendre pied sur l'île. Donc ça lui permet d'une part d'avoir accès au pouvoir magique d'Ariel, et d'autre part, il va pouvoir, si vous voulez, coloniser le savoir de Caliban. Et là, il y a un passage que je trouve vraiment extraordinaire dans l'histoire dans la tempête de Shakespeare, parce qu'il résume ce qui se passe effectivement lorsque des voyageurs, des colons arrivent quelque part. C'est qu'évidemment, pour prendre des repères, ils doivent poser des questions, obtenir des réponses, et ça, c'est très compliqué. Hernandez, très souvent, on ne lui répond pas, des fois, on lui ment, et c'est très dangereux de lui mentir, parce que s'il s'intéresse à des plantes médicinales qu'il doit absorber, et qu'en fait, on lui a vendu comme remède des choses qui sont en fait des poisons, eh bien c'est sa vie qu'il risque, et effectivement il a deux doigts de mourir en suivant les conseils de ses interlocuteurs du côté de la région du Michoacán. Et donc en fait il y a dans le fait de prendre des connaissances, enfin de prendre repère sur place, il y a la nécessité d'obtenir des réponses qui soient justes. Et là, on va arriver sur la question du questionnaire. Mais avant d'arriver là-dessus, la question cruciale, c'est comment faire accepter la transmission. Et on voit que la technique ici, est, on peut la qualifier de technique sociale. Il s'agit d'instaurer un rapport de confiance d'une part, et il s'agit d'autre part de donner une rétribution. Si tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose en échange. Et donc voilà ce que raconte... Donc ça, on le sait, il y a des tas d'historiens et d'historiennes des sciences qui se sont intéressés à ce genre de mécanisme de l'intermédiation, si vous voulez, etc. Ça a été un gros morceau de l'histoire des sciences, des rapports entre sciences et colonisation. Et en fait, si vous regardez Shakespeare, c'est une de ses dernières pièces, je ne sais plus, c'est 1619 ou je ne sais plus, mais c'est une des toutes dernières pièces qu'il écrit... Il vous le dit de manière limpide. Donc je vais lire Shakespeare. Donc acte 1, scène 2. Donc c'est Caliban qui se plaint auprès de Prospero. Et il dit « Cette île que tu m'as prise était à moi de par Sycorax, ma mère. Et à mon arrivée, tu m'as flatté. Tu faisais cas de moi. Tu me donnais de l'eau avec des baies dedans. Tu m'enseignais le nom de la grande lumière et de l'autre, moindre, qui brûle le jour, la nuit. Et moi, je t'aimais. Je te montrais les ressources de l'île, les sources fraîches, les places d'eau salée, les terres grasses et les stériles. Ah, que maudit je sois de l'avoir fait, que tous les charmes de Sycorax, ses crapauds, ses cafards, ses chauves-souris pleuvent sur vous comme la foudre. » Donc vous voyez comment, je ne sais pas si je l'ai bien lu, hein, c'est dur de lire Shakespeare, mais voyez comment voilà, toute cette question de la transmission des savoirs repose sur des négociations, des transactions qui font que, contrairement à ce qu'on pense, le colon... On ne peut pas dire la colonne, hein, donc je veux dire le colon, se désintéresse pas du tout du savoir des populations locales. Alors évidemment, il y a une tension. Cette tension, on peut la résumer de la manière suivante, c'est qu'il y a l'idée que l'usage, notamment des ressources par les colons, a plus de valeur que l'usage des ressources locales. C'est l'idée, si vous voulez, de l'optimisation de la valeur d'usage. Et donc, ce qu'on dit, c'est un discours qui est très classique, c'est que, vous voyez, les Indiens ont du maïs, ça peut les nourrir, ça peut nourrir leur bétail. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les jettent pour deviner l'avenir. Donc, évidemment, c'est tout à fait licite d'exproprier le maïs aux Indiens, puisqu'ils ne savent pas en faire bon usage. Ça, c'est caractéristique du discours colonial. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les savoirs, puisque les usages sont des savoirs, il y a une sorte de dévalorisation des savoirs, mais d'une dévalorisation en termes purement économiques. Mais dans le même temps, le maïs, les Européens ne le connaissent pas avant d'arriver. Ils ne savent pas du tout comment le cultiver, puis il y a des techniques particulières pour cultiver le maïs, et donc ils se rendent compte qu'en fait, il y a aussi une valeur du savoir des populations à soumettre. Et c'est ça, si vous voulez, d'une certaine manière, la tension qu'il y a dans ce type de transaction, c'est qu'il va falloir reconnaître la valeur d'un savoir pour la requalifier. Donc, possibilité en la reconnaissant de se transformer, mais toujours l'objectif qui doit être maintenu hein, de requalifier ce savoir. Et ce qui du coup est intéressant, c'est que s'il y a une conquête de connaissances, s'il y a une colonisation du savoir, comme j'ai essayé de le montrer, mais je me suis peut-être trompé, alors ça veut dire justement qu'il y a valorisation des savoirs indigènes. C'est la condition nécessaire de ça. Et là, c'est quelque chose de très clair, hein, c'est que les personnages qui vont le plus œuvrer à ça, ce sont très souvent des missionnaires. Missionnaires qui vont s'intéresser de manière très précise aux usages quotidiens des populations qu'ils veulent convertir, parce qu'ils savent que pour convertir à la foi chrétienne, eh bien, il va falloir déraciner tout ce qui, dans ces usages, appartient à des religions non chrétiennes, du paganisme, de l'idolâtrie, de la superstition. C'est toutes les catégories que vont employer les missionnaires. Et ces missionnaires, ils se rendent compte alors que dans les pratiques agraires, dans les pratiques médicinales, il y a des choses extrêmement ingénieuses. Et Isabelle Merle en parle lorsqu'elle évoque les systèmes d'irrigation qui sont décrits par les premiers missionnaires qui vont enfin, qui vont décrire les façons de faire des Kanaks. Et donc c'est la capacité des colons qui sont persuadés que voilà, ils vont pouvoir cultiver leur terre tranquillement en utilisant leur méthode. C'est la capacité de voir que localement il y a des savoirs qui sont très intéressants. Donc les colons pénaux installés après 1878 dans la vallée de Fonwari, où la population Kanak fut très nombreuse avant d'être complètement expulsée, prétendirent longtemps qu'il n'y avait jamais eu de Kanak. Ils ne voulaient pas voir les traces des billions d'ignames, des tertres de cases, des arbres plantés. Les Kanaks cultivent de petites parcelles et font des jachères pour faire tourner. Ils dégagent un coin de brousse, puis un autre, etc. Donc c'est une sorte d'agriculture itinérante. Les Européens et Européennes qui s'installent n'y voient que de la brousse. Ils ne distinguent même pas les jardins. Ne se disent pas que les trois pins colonnaires sont là pour une raison, que ça peut faire sens. Pourtant, les Kanaks étaient des horticulteurs hors pair, capables de mettre en place de vastes taraudières installées en terrasse, à flanc de montagne, et un système d'irrigation intelligemment conçu qui ont fait l'admiration des premiers observateurs. Et donc c'est là qu'elle fait la distinction entre ce que vont faire les colons qui ne s'intéressent pas à ça et les missionnaires qui, eux, vont s'intéresser à ça. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tous les textes que j'ai lus qui parlent de la manière d'optimiser l'exploitation économique de l'Amérique vous disent que les colons sont stupides parce qu'ils ne s'intéressent pas suffisamment au savoir des populations locales. Et là, c'est là que c'est très ambigu. C'est que dans une description qui vous dit toute la géniosité des plantations, enfin des jardins, des Kanaks, eh bien en fait, en reconnaissant la valeur de ce savoir, vous le rendez appropriable. C'est toujours très très ambigu, du coup, ce langage de la valorisation. Mais ça montre aussi que les logiques de la colonisation sont plurielles. Que ça peut être l'idée de la table rase, c'est-à-dire qu'on impose un modèle exogène, ou ça peut être celui de la combinaison. Et donc là, il y a différents cas de figure qu'on peut retrouver aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'en Amérique. Du coup, l'un des enjeux de cette entreprise de connaissance, c'est de décrire des manières de faire. Comment les gens se soignent, comment les gens plantent des ignames, etc. Et dans quasiment tous les articles, c'est un enjeu qui revient. Vous avez le saisonnier qui vous explique les petits trucs. Les petits trucs qu'on ne sait pas, qu'il faut apprendre à faire pour ne pas trop se casser le dos, pour arracher le raisin plus facilement. C'est super. C'est... Parce que lui, il dit concrètement les petits trucs. Voilà. Mais vous, ne les dites pas. Je vais vous dire pourquoi. Donc c'est... Alors voilà, il n'y a jamais eu de moment prévu pour la formation. Les employeurs considèrent que c'est facile, et dans le fond, c'est vrai. Mais tout ne va pas de soi. Par exemple, sur les arbres fruitiers, on fait plusieurs passages. Il faut avoir un peu l'œil pour repérer les fruits mûrs. Au début, tu prends le temps de regarder, mais alors tu vas trop lentement. Et si tu accélères, tu tries mal et on te le reproche. Ce temps d'apprentissage est pénible, en plus d'être pénalisant financièrement. Il y a des patrons qui sont pédagogues, mais pour les clémentines par exemple, j'ai souvenir qu'on m'a juste dit « De toute façon, tu vas voir, c'est simple, tu prends la clémentine, tu prends ton sécateur, tu coupes et puis voilà. » On ne te dit pas que tu peux prendre plusieurs clémentines dans la main ou tenir ton sécateur d'une autre manière pour aller plus vite. Dans les vignes, les patrons ne m'ont pas dit « Tu peux couper plusieurs grappes d'un coup et quand tu marches, tu gardes ton seau au sol et tu le pousses dedans avec ton pied pour faire tomber les grappes dedans. » Très intéressant. Très intéressant parce que... Tout ça, moi je ne le savais pas, mais j'ai jamais fait de saison, donc maintenant que je le sais, je pourrais le faire. Mais ça peut être mis en lien avec une autre histoire, qui est en gros l'histoire de la mécanisation du travail. Alors là, je sors un peu du contexte de la colonisation, mais il y a toute une littérature qui intéresse beaucoup l'histoire des sciences, qui traîne depuis le XIIIe siècle et qui va jusqu'au XIXe siècle, mais qui en fait va au moins jusqu'au XXe siècle, qui est ce qu'on appelle la littérature des arts. Réduction en art, rédaction des arts, c'est-à-dire qu'on prend un ensemble de gestes qui ont l'air d'être de gestes épars qui n'ont pas l'air d'être rationalisés, etc. Quelqu'un va les observer. Très souvent, c'est un praticien lui-même, mais qui a appris à écrire et qui veut du coup théoriser, codifier son art. Mais des fois, c'est des gens qui ne sont pas des praticiens qui les codifient pour les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous développez, vous avez du coup deux possibilités lorsque vous décrivez les différentes manières, par exemple, de faire de la charpente. Soit vous faites un inventaire exhaustif parce que vous voulez embrasser la diversité des manières, soit vous faites une sélection des meilleures manières. Et bon, ça peut valoir pour la charpente, mais ça peut valoir pour absolument tout type de travail. C'est-à-dire que des gestes physiques passent sur un support écrit. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va exactement... Enfin, c'est au cœur de la méthode des instructions au sosie. Donc c'est un peu ça. Donc vous lirez, c'est super, vraiment super. C'est en gros, voilà, vous faites semblant de pas savoir comment faire quelque chose, allez voir un ouvrier et l'ouvrier dit, ben voilà, c'est comme ça que tu fais, c'est les petits trucs, voilà les petits trucs. Alors concrètement, pour apprendre les petits trucs pour bien exécuter un travail, eh bien, il y a la technique de l'observation et puis il y a aussi la technique du questionnaire. Hein. C'est, historiquement, ça a été ça. Toutes les enquêtes sociales du 19e siècle, elles reposent aussi des fois sur la nécessité d'aller codifier le geste des paysans, le geste des ouvriers, etc. Et c'est cette codification qui rend possible la mécanisation de ces gestes. Donc, on est un peu dans une histoire du capitalisme. Donc, c'est très, très ambigu, cette histoire des instructions et ceci. Et du coup, dans le questionnaire, ce qui est le plus important dans ces questionnaires, c'est pas les identités qui peuvent en être extraites. C'est-à-dire, voilà, le questionnaire, ça commence très souvent par « Qui êtes-vous ? Où travaillez-vous ? Avec qui travaillez-vous ? » etc. Ce que vise réellement ce type de questionnaire, c'est « Comment faites-vous ? Comment faites-vous ? » Et donc, vous êtes essayé à un auto... Enfin, il est passionnant ce dossier, j'avais plein de choses à dire, mais je ne veux pas trop parler. Et donc voilà, vous répondez au questionnaire de Marx. Donc c'est un questionnaire sur l'enquête ouvrière qui est un monumental échec. Hein. Il n'a pas du tout, je crois que c'est quoi, c'est 200 000 exemplaires pour 200 réponses ? Centaines de réponses, mais je crois qu'il y a eu plusieurs milliers dans tous les cas de questionnaires imprimés. Donc voilà, les gens n'ont pas voulu répondre aux questions de Marx, qui manifestement était moins talentueux que Prospero pour faire parler. Il aurait dû donner des baies sucrées. Et donc vous y essayez, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que donc il y a c'est quand vous faites en fait les instructions aux saisies. Alors là, je me suis dit quand même il y a un problème. Il y a un problème parce que en gros, on essaye de dire imagine-toi, je fais le même travail que toi, et en fait c'est vrai que je fais un peu le même travail que vous, puisque je travaille avec des textes. Et moi ça m'intéressait du coup de savoir comment vous faites concrètement avec les textes, c'est-à-dire comment est-ce que vous faites pour, je sais pas, pour les corriger, pour les rendre plus simples, plus clairs, etc. Ça n'apparaît pas du tout. L'instruction au sosie, et je me suis dit que comme effectivement j'étais aussi votre sosie, c'est l'histoire de la procrastination. J'arrive sur mon ordi et je fais tout pour faire la chose au dernier moment, quoi. C'est ça. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les manières de faire ne sont pas décrites. Et je pense que, en tout cas, c'est mon hypothèse, je vais finir avec ça, que c'est pas pour rien qu'elles ne sont pas décrites, parce que, d'une part, c'est très difficile de véritablement mettre des mots sur ces manières, mais qu'il y a toujours le risque de la dépossession, non pas au sens stratégique, tu vas me piquer une technique, mais de sens de la dépossession, où ma manière étant en fait indissociable de moi, la mettre hors de moi par le texte, c'est quelque part me trahir. Donc c'est pour ça que je m'intéresse aujourd'hui à la question de la question, donc à l'histoire des questionnaires. J'aimerais avoir votre avis sur cette question et aussi savoir comment vous faites concrètement pour, par exemple, corriger un texte qui est trop long ou raccourcir une intervention qui est trop longue comme la mienne. Merci.
Moi, je sais, non. Parce que là, tu donnes une explication qui serait un peu de l'ordre de l'inconscient. C'est vrai qu'on a travaillé... En tout cas, ça, on ne s'est pas dit. Même si, en travaillant avec Lise Gagnard, qui nous a un peu accompagné pour apprendre cette technique-là, qui nous a fait d'ailleurs les premiers sosies, en fait, c'était elle qui faisait on l'appelait la nouille, qui était la personne qui posait les questions, qui essayait de Lise Gagnard, c'est une psychologue et une psychologue du travail, une psychanalyste. Elle nous a quelque part tout de suite invité à détourner cette forme-là, en montrant peut-être les travers, enfin, en tout cas, elle-même le raconte dans son petit encadré, les travers qui étaient le bureau des... Comment elle appelle ça? Le bureau des... Le bureau des méthodes, genre pour développer des méthodes de travail efficaces, etc., etc. Et donc, ouais, qui est juste pour optimiser le travail, quoi. Après, je pense que sur la petite cuisine de pourquoi est-ce qu'on n'a pas raconté exactement très précisément la façon dont on travaille, c'est que je pense qu'il y a eu une grosse question qui a traversé cette auto-enquête, c'était est-ce que ça va intéresser les gens en fait ? Est-ce que vraiment si on raconte la façon dont on travaille, est-ce que des gens qui lisent cette revue, parce que c'est une revue généraliste, ont vraiment envie de savoir comment on travaille, comment on édite un texte. Et je pense que là, je pense qu'on a peut-être manqué un peu de confiance par rapport, enfin, sur le fait est-ce que ça peut intéresser des gens, quoi.
En fait, il me semble que ce pourquoi on l'a pas fait, c'est que c'est une méthode, la méthode d'instruction des sosies, c'est une méthode qui s'intéresse aux individus, aux personnes et individuellement, comment elles se mettent en marche, comment elles se mettent au travail et tout, alors que on conçoit notre travail éditorial de manière très collective. Du coup, on fait beaucoup de réunions, on est beaucoup à travailler les textes. Et on aime souvent à dire que c'est ce qui fait un peu notre patte. Enfin, ça nous prend beaucoup de temps, mais on y tient un peu. Et du coup, je crois que c'est pour ça qu'on l'a pas travaillé, peut-être. Voilà.
Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on en a parlé la semaine dernière. On a passé tout un après-midi à travailler la manière dont on travaillait collectivement les textes. Et à écrire un document qui pouvait être partageable aux personnes qui rentrent, etc. C'est-à-dire que c'est... Bah, du coup, on n'a pas trop décrit, en fait, quand même, in fine, comment on travaille les textes. En fait, en gros, on reçoit un texte où il est écrit par un membre du collectif et il faut toujours qu'il y ait plusieurs personnes qui le lisent, le valident. Et après, idem, plusieurs autres personnes, si possible, qui travaillent à le réécrire en faisant des propositions de coupe. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Après, à chaque fois, ce processus-là, il est re-questionné en pratique. Et c'est pour ça aussi qu'on s'était réunis la semaine dernière, parce qu'il y avait certaines pratiques ou certaines manières de relire qui étaient discutées. Voilà, c'est aussi quelque chose qui, comme le reste de la revue et comme tout ce qui est collectif, quoi, est constamment remis en cause, et il suffit qu'il y ait une personne qui dise ça ne va pas, bah du coup on re-questionne.
Oui, je voulais juste dire un truc, c'est que je suis d'accord que le travail est collectif, mais in fine il y a quand même un moment où on se pose chacun dans son coin à lire le texte et nous on a un code couleur pour le corriger et qu'on va mettre du bleu quelque part, du rouge quelque part, enfin du bleu c'est pour reformuler, le rouge c'est pour couper, enfin voilà, il y a quand même des... Et donc je suis d'accord que c'est vrai qu'il y a... Et peut-être que la réponse d'Alexandre va dans le sens de ce que tu disais, que peut-être il y a un truc qui résiste parce qu'on veut garder cette idée du travail collectif, mais quand même il y a une partie qui passe par un moment où un individu est face à un texte, qui le lit, qui le corrige. Mais en tout cas, on croit vraiment, et je pense qu'on a raison de le croire, que le résultat du texte est quand même le travail d'un collectif, quoi.
Moi, en fait, je te trouve trop dur en disant que le texte, c'est juste un récit de procrastination. Parce que bon, pour ceux qui n'ont pas lu le texte, ce qui pourrait frapper quand on s'attend à voir une description de comment on relit, quel vocabulaire on choisit, qu'est-ce qu'on supprime, qu'est-ce qu'on garde, c'est effectivement pas du tout ça. C'est, en gros, c'est une compilation de différents entretiens. Différentes personnes qui décrivent leur journée de travail. On en a fait une seule à partir de tout. On en a fait une seule journée de travail, et du coup, alors effectivement, il y a la description du premier café, du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième café. Quand est-ce que j'ouvre mes mails, comment je les classe, enfin voilà, tous ces petits détails-là. Mais moi, ouais, et moi je pense que c'est là que tu. Avec la provocation, tu passes à côté de l'essentiel de cet entretien qui est... Non mais en le sachant parfaitement, justement, c'est ça, l'instruction sosie, c'est ça. C'est, si je me contente d'observer l'ouvrier, je vais pouvoir décrire l'ensemble des gestes qu'il fait. Mais en fait, on se rend compte que quand on fait ça, eh ben, on passe à côté de l'essentiel, ce qu'on peut pas voir et qu'on n'arrive pas à capter par l'observation extérieure. Et donc, alors juste pour vous dire, cette technique, c'est donc un travailleur, une travailleuse, parle à quelqu'un qui le lendemain doit prendre son poste et ne connaît rien au travail. Et afin que la personne puisse prendre son poste, elle lui décrit très précisément sa journée de la veille. Enfin, en tout cas, une journée récente. C'est important de faire appel à la mémoire récente pour pas que la personne se raconte une histoire sur comment elle travaille. Enfin, si on lui dit c'est quoi ton travail en général, alors là tous les mythes arrivent. Ok, moi mon travail c'est ci, c'est ça. Non. Hier t'as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait en arrivant? À qui t'as dit bonjour? À qui t'as ouvert la porte? Enfin voilà, ce genre de truc. Et du coup c'est exactement ça qu'on a fait. Et justement la substance de ce texte au final, c'est que en fait, trier ses mails, c'est du travail. Enfin, voilà. Les traiter, c'est du travail. Même pour quelqu'un qui fait une chronique sur les comics, bah, lire une BD avant de se mettre à sa journée de travail, bah, c'est déjà du travail, en fait. Et en fait, ça décrit bien... ça décrit tous ces petits trucs de travail qu'on n'aurait pas classés automatiquement comme étant le travail éditorial d'une revue.
Non, évidemment, je dis une bêtise, je suis désolé. Mais non, mais c'était aussi pour parler de moi, en fait. C'est que moi, je me suis vraiment, je me suis dit, je suis vraiment leur sosie, quoi. Je fais ça, je regarde les mails. J'ai aussi, voilà, ce sentiment de me dire que s'il n'y a pas un nouveau mail dans la boîte, c'est qu'il ne s'est rien passé. Mais maintenant, c'est devenu l'inverse. C'est que j'ai tellement de mails qui s'accumulent auxquels je ne réponds pas que j'espère qu'il n'y en a pas. Mais c'est vrai qu'il y a, c'est la routine. Hein. On en parlait tout à l'heure. Donc, quelque chose dans le rapport au temps qui fait qu'on, on prend le temps d'y aller, quoi. Mais c'est déjà y aller, je suis tout à fait d'accord. C'est déjà y aller. Après, quand même, ce que je voulais dire en disant par... Enfin, dans l'enquête de Marx, il y a une grosse insistance sur la présence des machines. Et qu'est-ce que ça fait à la journée de travail? Qu'est-ce que ça fait à la personne qui travaille et tout ça? Et ce que je voulais dire par là, c'est que le rapport à l'écran produit un rapport au temps tout à fait particulier qui fait que c'est pas tout à fait la même chose que quand on va faire de la boulangerie. Et je trouvais que c'était du coup intéressant de le souligner, procrastination étant une catégorie évidemment mal choisie mais à dessein, mais voilà, il y a quelque chose que je trouve, et j'ai quand même l'impression que ça concerne beaucoup de monde qui travaille au bureau, quoi. Donc de ce point de vue là évidemment c'est très fidèle, c'est très très fidèle. Désolé d'avoir été inutilement provocateur.
C'est vrai que en t'entendant parler, je me rends compte que une des choses qui avait un peu animé cette histoire d'auto-enquête, enfin, on parlait souvent de cette histoire de rapport à l'écran, à la dématérialisation de notre travail, etc. Et que finalement, par exemple, face au questionnaire de Marx, on a choisi de plutôt traiter, alors ok, c'est d'une façon un peu comique, plutôt l'angle du bénévolat, enfin le fait que parce que ça on l'a pas dit, mais on est tous bénévoles, enfin on travaille gratuitement. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas exactement, finalement, on n'est pas rentré dans le vif du sujet de ce rapport à l'écran, enfin le rapport à qui était un truc qui était présent, enfin qui était un c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup parce que, comme on vous a dit, on fonctionne par comités différents et chaque comité, en fait, ça se matérialise quelque part par une liste mail. Et il y a même dans le CD qui n'existe pas, mais qui est disponible sur le site internet La Création Sonore cette année, il y a un texte qui raconte comment ce CD n'a pas vu le jour. Et il y a un moment où il y a une fille qui dit j'ai ouvert ma boîte mail aujourd'hui, il y avait 68 mails de Jeff Clack non lus, j'ai failli fondre en larmes. En fait, voilà, c'est ça la réalité aussi de... C'est vrai que... Je ne sais pas trop ce que je veux dire par là, mais c'est intéressant cette histoire de rapport à l'écran, en fait.
Oui, merci pour cette... Ça marche là, oui, sur cette présentation. Juste un petit commentaire parce que ça a été évoqué très rapidement et puis le genre de commentaires ou de questions qui ressortent naturellement sur comment on se justifie, sur comment on est devant l'écran ou qu'est-ce qu'on a fait ou comment on peut modéliser ou décrire son processus de travail. Ça a été dit très rapidement, mais il faut toujours se rappeler qu'on a une pression énorme tout le temps d'efficience et qui est liée là au rapport social capitaliste où on est, où il faut arriver tout le temps à avoir un mode de transmission des compétences le plus anonymisé possible. Et que quand vous êtes en entreprise, dans les grandes boîtes, etc., c'est une branche de l'organisation du travail à elle toute seule, quoi, de produire ces méthodes-là. C'est des choses très très lourdes. Et le fait que c'est pas qu'une histoire de dépossession individuelle inconsciente de résister à ça. Des fois, c'est vraiment indispensable de lutter contre ça parce que, par exemple, c'est ce qui permet à moyen ou plus long terme de réduire le nombre de postes. Alors ça, c'est juste en termes d'efficience, mais c'est aussi de déplacer les gens ou de les licencier, etc. C'est d'avoir réussi à synthétiser formellement. Voilà. Et donc il y a une forme de résistance qui passe dans les boîtes, je pense, dans beaucoup de boîtes, y compris par des formes de procrastination. Ça peut être le cas. Et pareil, c'est angoissant d'entendre parler de boîtes mail trop grosses, parce que là aussi, je vous assure, dans les boîtes, et puis c'est tout un aspect de la sociologie du travail, c'est qu'il y a de le dire qu'il travaille là-dessus pour, encore une fois, aider les gens à rester zen par rapport à ces flux complètement délirants. Alors, on a des formations sur comment utiliser de nouveaux outils qui nous aident à gérer les outils qui deviennent les anciens outils qui nous paraissaient hyper fun et qui deviennent finalement hyper anxiogènes maintenant, quoi. Donc, c'est assez drôle. Je suis content de voir ça ailleurs.
Je veux juste dire quelque chose. Je crois qu'à la fin de la colonisation du savoir, dans les remerciements, tu remercies personne. Enfin, tu dis je remercie beaucoup de monde et tu nommes personne. Non, mais et après tu expliques l'importance de la question du secret et tu rappelles aussi ce qui dans ce livre. Enfin, c'est un livre qui parle beaucoup de ce qui a été transmis entre des colonisés aux colons et de tout ce qui n'a pas été transmis aussi, enfin, du secret, des malentendus, des erreurs, etc. Et donc ça me fait à la fois penser à cette question du secret ou des implicites ou des choses non partageables dans nos pratiques éditoriales qu'on n'a pas réussi à partager dans ce dossier-là. Et je pense aussi au film d'un collectif qui s'appelle le Carabine Film Collectif, qui est un collectif d'aborigènes qui font des films. Et qui, en fait, ils font des films comme ils peuvent. Ils sont tous dans des situations extrêmement précaires, etc. Et ils sont face à des autorités, du coup, coloniales qui paramètrent leur identité autochtone et la figent dans ce qu'ils estiment qu'elle a été et qu'elle doit être. Et en fait, ils font des films qui racontent des histoires. Ces films-là circulent dans le monde entier. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils mettent en scène des choses et tout est là et rien n'est là. C'est-à-dire que, en fait, il y a plein de choses qui ne seront pas du tout signifiantes dans ces films en dehors de la communauté. Il y a plein d'éléments qui sont de l'ordre de la transmission à l'intérieur de la communauté par ce film-là. Et ça ne sera pas compris en dehors et ça n'a aucune vocation pédagogique. Ça ne transmet rien, mais ça transmet en interne. Et voilà, je trouvais intéressant ces objets-là, en fait, qui sont pas ambigus, en fait, mais qui utilisent l'opacité aussi, en fait, et le non-partageable, quoi.
Merci beaucoup. Les deux remarques sont très intéressantes. Alors, pour préciser, effectivement, c'est pas que je remercie personne, c'est que je ne nomme personne. Et donc, c'est pour préférer, si vous voulez, le processus de la reconnaissance à celui de l'identification. Je veux que les gens se reconnaissent. Et donc, et ce qui m'intéressait aussi, c'est que il n'y a pas que ça. Le truc le plus scandaleux, c'est que le chapitre 10 ou le chapitre X, qui est plus ou moins la conclusion, il n'y a pas une seule note. Mais il y a des clins d'œil à au moins une centaine de personnes. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis une note en disant Karl Marx, le Capital, ou je ne sais pas trop quoi. C'est qu'il y a des tas de choses que j'ai reçues dans des discussions et ça ne peut pas se citer, ou même des gens dont je ne connais plus le nom parce que j'ai parlé avec une personne un jour dans un avion qui m'a complètement transformé. Et donc, je me suis dit que c'était mieux de ne pas hiérarchiser par le jeu du visible et de l'invisible, et donc que tout le monde soit invisible et qu'en même temps il y ait des clins d'œil qui, même s'ils ne sont pas reçus, au moins je sais que je les ai faits. Et donc ça va complètement dans le sens que tu viens de dire. Et là où ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure sur comment on fait pour résister face à une méthode apposée ou à l'acquisition d'une méthode, c'est pour ça qu'il y avait cette question que je trouvais intéressante, à qui profite l'enquête sociale ? C'est-à-dire qu'après, ça dépend de quelle enquête sociale on parle, mais une enquête qui va très finement décrire étape par étape les gestes d'une personne qui travaille dans une usine, etc., vous pouvez être sûr que ce sera à des fins d'optimisation. Mais ce qui est intéressant, c'est que même quand on voit le résultat d'une enquête de ce type, eh bien, il y a quelque chose qui résiste à cette entreprise. Il y a quelque chose dans la manière qui va au-delà. Et voilà, c'est même pas il y a la résistance active et puis il y a une résistance qu'on peut qualifier je ne vais pas dire objective parce que ce n'est pas le mot qui conviendrait, mais c'est une résistance qui est là, point. C'est-à-dire la manière d'être des gens, elle est forcément irréductible. Il y a quelque chose d'irréductible dans la manière. Et donc, en fait, quand je vous ai provoqué en vous disant que vous ne montriez pas vos tricks, je vous disais que c'était une manière qui s'exprimait là-dedans et que je trouvais qu'il y a une forme de résistance qui fait que, en fait, les personnes qui vont vraiment comprendre ce qu'il y a dans le texte, c'est vous. où c'est les gens qui habitent avec vous la revue. Et là, c'est pour ça que, d'une part, je vous invite à lire et si vous pouvez acheter cette revue, parce qu'il y a un texte qui est très bien, c'est celui que j'ai un peu évoqué sur la cartographie maya, c'est une traduction, c'est Amaya Solari, c'est ça, je sais plus. Et en fait, elle montre comment une forme qu'on peut a priori rabattre sur des schémas de production occidentaux, en fait, a été complètement subvertie. Il y a une idée, je ne sais pas, c'est pas, vous dites pas piratage, je ne sais pas, c'est quoi le mot qui est employé pour pirate. Voilà, c'est les Mayas la pirate. C'est-à-dire qu'on pirate une production, une commande coloniale sur une carte, et en fait, et ça ressemble à l'histoire de Papin, c'est que les missionnaires qui ont commandé la carte et qui sont heureux de la recevoir n'y voient rien. Ils ne voient pas à quel point, en fait, les Mayas ont même centrer leur carte, centrer la carte sur leur expérience du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans des tas d'autres codex, un codex sur les plantes médicinales. Et en fait, on voit que la manière dont sont décidés un certain nombre de détails sur les pétales ou sur les fleurs, il y a toute la cosmogénèse nahuatl qui s'exprime. Et donc, c'est exactement ce que tu disais sur le film, c'est-à-dire qu'il y a une image qui peut contenir plusieurs discours et qu'on peut résister par c'est pas par un silence, mais c'est par une écoute différentielle. Il y a une question.
Vous l'avez en fait évoqué, Samir et d'autres, dans vos présentations, mais il y a un élément important qui me semble important à rappeler, c'est que on a produit notre propre enquête. Donc, on a décidé que on allait parler de, enfin que ça allait être nous qui allions parler de nous-mêmes, quoi. Et du coup, et ça c'est un positionnement, c'est une chance qu'on a, et on n'a pas demandé à quelqu'un de venir parler de nous. Donc on ne s'est pas fait parler, ou je ne sais pas comment dire, mais et ça, donc, c'est un choix qu'on a fait. Il me semble que dans ton exemple, c'est aussi ça. Dans ce que tu dis aussi, il y a vraiment cette chose, c'est de produire soi-même la connaissance sur soi. Et ça, c'est une chance et un pouvoir qu'on prend sur nous-mêmes, et on n'autorise personne à le faire à notre place. On a beaucoup discuté de ça avant de lancer cette auto-enquête, de quelle place on donne aux personnes extérieures qui viendraient nous analyser. Et qui on choisit, selon quelle méthode, quel regard, quelle place on pourrait leur donner, et voilà. Et au final, on a quand même, on a laissé très très peu de place, mais c'est un choix qu'on a fait, on aurait pu en faire un autre, hein, mais de... Oui, c'est vrai. On a juste du coup fait appel à deux personnes... très proche du collectif, en fait, donc même pas forcément trop extérieur, mais à qui on a demandé d'avoir un regard quand même un peu extérieur, bienveillant, même en tant que connaisseur ou connaisseuse. C'est donc Lise Gagnard, psychologue du travail dont on a parlé tout à l'heure, et un ami qui était dans la revue, qui est David Gaborio, qui est sociologue du travail. Et voilà, et en fait, eux nous ont poussé à produire nous-mêmes notre propre enquête, quoi.
Le problème, c'est que c'était une autre question que je voulais vous poser, parce que je pense que c'est parfait comme positionnement, moi je le partage absolument, mais si on pousse la logique plus loin, s'il n'y a d'enquête justifiable que sur soi, que fait-on des enquêtes qu'on fait sur les autres ? Je ne vois pas comment c'est justifiable, mais en même temps, je trouve que c'est super que les enquêtes que font Z existent, que vos enquêtes existent, et que je vois en tous les cas une vraie différence, et c'est pas un jeu de mots, hein, c'est qu'il y a une énorme différence entre l'enquête sur et l'enquête avec. Mais ça implique une certaine restriction du champ possible de l'enquête, donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
Ouais, moi je veux bien ajouter juste un mot là-dessus, c'est que je pense qu'il y a encore une... En tout cas, ça revient un petit peu aussi à la question de la transmission, c'est-à-dire qu'il y a la question du regard extérieur, mais aussi la question de l'apprentissage de certaines méthodes, quoi. C'est-à-dire que sur le coup de... Enfin, sur la question de... Sur la méthode des sosies, etc., ça a été approprié par le collectif. Sur les autres types de discussions qu'il y avait eu avec David, donc, qui est sociologue, etc., la question s'est pas trop posée, et alors qu'il y a... Il y a la possibilité de le faire aussi. Il y a des possibilités de s'observer entre nous, de se décrire entre nous, etc. Des choses qu'on n'a pas faites. Mais je pense qu'il y a aussi certains domaines où justement c'est plus la transmission est plus facile que d'autres, peut-être sur d'autres méthodes ou je ne sais pas.
Enfin, je voulais dire, enfin, moi, bon, même si je suis pas, si je fais pas partie de votre collectif. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Par exemple, ça peut se voir aussi dans le cinéma. Enfin, depuis 2014-2015, il y a beaucoup de films qui ont été filmés sur les migrants ou les personnes en exil, sans que les personnes qui ont filmé justement les gens qui les ont accompagnés sans jamais montrer devant la caméra, sans jamais manifester dans le moment qu'ils vivent avec les personnes qui sont filmées, quoi. Et le lien social, enfin le lien, je sais pas trop, mais enfin on ne voit pas, je sais pas, pour moi c'est pas forcément quelque chose de très cohérent. Excusez-moi, moi, j'ai un peu du mal de m'expliquer. De faire quelque chose ou de produire quelque chose sur des êtres qui sont en face de nous que de faire avec, quoi. C'est pas pareil.
Il y a un autre aspect qui, pour compléter ce que disait Alexandre, c'est que les gens avec qui on fait des enquêtes participent à l'écriture. Enfin, c'est-à-dire que, ok, on écrit nos textes, mais après ces personnes-là sont complètement souveraines de leurs propos. C'est-à-dire qu'une fois que le texte est écrit, elles peuvent corriger, dire non mais ça je veux pas dire. C'était toute la question de, par exemple, moi j'ai travaillé sur cette histoire de grève de femmes là avec ces femmes paysannes en Amazonie. Il y avait tout un enjeu émotionnel et politique de raconter cette histoire, qui était importante pour elle, mais qui était aussi problématique. C'est-à-dire qu'il y en avait certaines qui ne voulaient pas que ce texte soit écrit pour tout un tas de raisons liées à leur relation de couple. C'était une histoire très douloureuse dans la mémoire de ce campement-là. Et en fait, c'était une négociation... négociation, c'est pas exactement le bon mot, mais sont elles qui sont convaincues entre elles de dire non, nous on a envie de voir quelque chose là-dessus, de raconter cette histoire face à un regard extérieur. Et en fait, j'ai passé peut-être 4 heures au téléphone avec elles en lisant le texte écrit en français. Déjà pour elles, c'était important que ça soit écrit en français et pas en portugais, parce qu'elles ne voulaient pas que le texte puisse être lu en portugais. Bon, ça c'est une chose. Et après, mais il fallait quand même que je traduise, donc qu'on lise ensemble et que elle corrige des trucs qui parfois, même pour notre travail éditorial, semblaient de l'ordre vraiment du détail, ou ok, mais est-ce que tu veux vraiment mentionner ce mouvement qui n'a jamais été mentionné avant, on va pas en parler, mais pour elle c'était important. Enfin, et ça, c'est vrai pour tous les textes qu'on fait, quoi, avec les gens, que c'est important, quoi.
Je comprends. Et du coup, c'est une question, mais aussi une remarque que je voudrais faire, c'est que un autre élément de définition possible de l'enquête avec, mais ça rejoint à ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas simplement que les réponses soient coécrites, c'est que les questions soient formulées ensemble. Et ça, c'est extrêmement important, parce que si on revient un peu sur l'histoire de la procédure d'enquête dans son sens judiciaire, donc l'inquisition, ça se fonde justement sur le fait que le questionnaire est entièrement défini par un juge qui instruit. Alors que la procédure accusatoire, c'est la confrontation de différents questionnaires. Alors les gens doivent, enfin, c'est ça l'intérêt de la chose, c'est que les gens doivent reformuler les catégories dans lesquelles doivent être appréhendés un crime, un délit, etc., etc. Ça, c'est à mon avis fondamental. Et là, du coup, je me demande comment les questions sont produites, comment elles sont, pour en revenir à la question de la question. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est à mon avis quelque chose de très important, quoi.
Pour répondre à ce que tu dis, parce qu'il y a une... Il y a un entretien avec une cinéaste qui s'appelle Rosine Mbakam, qui dit exactement ce que tu dis, quoi. Où elle parle de sa gêne devant un film de Depardon, Afrique, comment va ta douleur, où Depardon filme une femme et ça se voit à son visage qu'elle n'a pas envie d'être filmée, quoi. Et elle, justement, elle travaille dans un foyer, elle habite dans un foyer de jeunes filles. où elles sont toutes dans des situations plus ou moins similaires de précarité, d'arrivée sur le territoire en Belgique, etc. Et du coup, c'est depuis cette, ces regards communs et ces questions communes qu'elles avaient qu'elles peuvent les filmer. Quoi.
Ça va aller un peu dans le désordre parce que je voulais répondre à plein de choses et tout se mêle en ce moment. Mais pour revenir à la question de l'enquêter sur et l'enquêter avec, pour être anthropologue et me sentir un petit peu appelée en cause, du coup, je trouve qu'il n'y a pas... c'est une opposition très stricte et dichotomique. Et pour ceux qui font du terrain, mais je pense que ça doit être vrai aussi dans vos enquêtes, on ne peut pas réduire les personnes avec qui on travaille à des objets. Enfin, même si on ne se posait pas du tout la question, elles ne se laissent pas réduire à des objets. Et en même temps, il y a différents degrés de travailler avec, même quand on a envie de faire quelque chose de très participatif. On n'a pas les mêmes niveaux de compétences, les mêmes registres, etc. Donc il y a forcément des inégalités dont on ne peut pas faire abstraction, voilà, qui sont là.
Hein ? Il ne faut pas les nier.
Non, c'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, pour moi, ce que peut-être vous avez essayé de faire et ce qui se fait beaucoup aujourd'hui en anthropologie, c'est justement d'avoir une posture réflexive et de les nommer, de nommer ce positionnement, de nommer ces inégalités, de les prendre en compte, de prendre en compte son point de vue. Et juste pour dire sur qu'est-ce que... Alors, moi, je pense que personne ne veut être un objet d'enquête. Personne ici ou ailleurs, personne demande d'être un objet d'étude. N'empêche que beaucoup de gens trouvent un intérêt divers à qu'on raconte leur histoire, à qu'on parle avec ou à pouvoir s'exprimer aussi à travers. Et à titre très personnel, moi je trouve dans ma discipline vraiment un intérêt politique aussi. Que moi j'identifie, mais ce n'est pas du tout généralisable, avec une forme de traduction de la différence, de décentrement du regard. Et franchement, je le trouve beaucoup, l'intérêt politique, je le trouve moins sur le terrain avec mes interlocuteurs que quand je donne cours ici et que je travaille à déconstruire des imaginaires exotisants, coloniaux, qu'on a tous, qui sont très récurrents, même dans des cercles militants, par exemple. Donc, voilà, ça c'est ma...
Je comprends, et en tout cas, effectivement, tu as raison de dire que la dichotomie sur et avec, en pratique, ça varie toujours entre les deux pôles, mais il y a quand même une tradition de l'anthropologie, notamment l'anthropologie par questionnaire, et je peux t'assurer que ça existe encore, qui est clairement du côté sur et pas du tout du côté avec. C'est et notamment pour des questions, enfin, toute l'anthropologie appliquée, c'est-à-dire anthropologie médicale, par exemple, alors là, des fois, c'est vraiment... ils arrivent avec un programme et paf. Donc c'est tout. Enfin voilà, l'anthropologie c'est très varié. Mais enfin je sais pas. Après ça peut nous mener dans un débat qui va aller très 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 loin. Donc je sais pas si. Parce qu'en même temps je comprends l'intérêt politique de ce que tu viens de dire sur le fait de transformer le regard. La question du décentrement est très piégeuse, mais le risque, si tu dis quelque chose comme ça, notamment sur ton enquête, et là je vais me référer à un ouvrage qui a été publié par ces excellentes éditions Anacarsis, c'est Johannes Fabian, Le temps et les autres, c'est ça, hein, c'est de passer sous silence ce qui se passe dans la cotemporalité entre la personne qui vient mener une enquête et les personnes avec lesquelles elle vit à ce moment-là. Et tout le risque, justement, de mettre en avant le rapport plutôt que l'expérience, il réside en partie là-dedans, parce que finalement, le rapport ne rendra pas fidèlement compte de l'expérience. C'est un livre super, hein, je fais de la pub, mais c'est vraiment... Il y a chez Anacarsis plusieurs textes vraiment importants qui ont été publiés. Il y a Johannes Fabian, ça a été repris sous un autre angle par deux Anthropologie de l'ordinaire et par aussi Albo Bensa, dont les travaux sont en tension, mais aussi en lien avec ceux d'Isabelle Merle. Et donc, je pense que voilà, il y a, enfin, c'est compliqué de dire que la justification politique a lieu ici, en France, et de dire en même temps qu'on fait du décentrement. Et puis ça me fait penser à autre chose. Bon, je ne sais pas, ça évoquera sans doute des choses à des gens, mais il y a toute une volonté aujourd'hui de régénérer, on va dire, l'Occident naturaliste à partir de d'autres rapports au monde qui seraient notamment, enfin, c'est surtout l'animisme. Bon, ça c'est vraiment dans les milieux militants, etc. Et là, il y a clairement de l'exotisme. Il y a clairement voilà, une représentation un peu fantasmée de ce que ça veut dire être animiste. Et une des meilleures réponses qu'on peut donner à ça, c'est de montrer à quel point un biologiste aujourd'hui qui vit à Toulouse est animiste dans sa relation à des tas de plantes. Donc voilà, c'est clair. Et moi, j'ai quand même vraiment du mal avec l'idée d'envoyer des gens qui vont poser des questions sur le rapport au réel de gens complètement différents pour régénérer le nôtre. Enfin, je trouve que là, on est sur une sorte de colonisation au troisième degré qui consisterait à dire que maintenant, ce qu'on va récupérer, c'est plus des savoirs utiles, mais c'est la bonne vie. On va coloniser la bonne vie des autres. Comment ? Non, mais vas-y. Mais je ne dis pas que c'est ce que tu fais, je sais très bien que c'est ce que tu fais, mais je t'assure qu'il y a, pour avoir été à un endroit, enfin, sur le plateau des Mille Vaches, il y a 2 ans, c'était une sorte de raout d'anthropologues, etc., etc. Et en fait, même les anthropologues qui venaient étaient gênés par les demandes de certaines personnes. Il n'y en avait pas beaucoup, mais de militants qui disaient comment on peut faire pour devenir animiste. Enfin, c'est pas possible, ce n'est pas possible.
Si quelqu'un veut parler après moi, il peut, parce que j'avais juste un truc à dire. Ça fait comme si je dis on s'arrête, mais c'est moi qui parle en dernier, mais ça fait un moment. Mais c'est juste, vraiment pour revenir au ras des pâquerettes, puisqu'on parlait de l'auto-enquête. Moi, en tout cas, dans mon expérience, comment j'ai vécu cette auto-enquête, c'est que c'est à la fois sur et avec, en fait, parce que c'est un peu une enquête sur moi, parce que je fais partie de ce collectif. Mais en fait, j'ai jamais eu l'impression que moi, je faisais une enquête sur moi. On est toujours en train de regarder les autres. Quand on a défini plein de rôles différents dans le collectif, par exemple. Et du coup, je pense que les rôles qu'on a trouvés, qu'on a définis, c'est pas les nôtres, en fait. C'est ceux d'autres gens du collectif. Donc, on est toujours un peu extérieur. Donc, ça donne lieu à des cartes qu'on a appelées les cartes magiques de Jeff. Donc, il y a des rôles avec des pouvoirs spéciaux, des points forts, des points faibles. Pour chacun des rôles qu'on a identifiés dans un collectif, il y en a 6 je crois, voilà, et bon, ça par exemple, ou le sosie, moi j'ai regardé les autres faire des sosies, j'en ai fait un moi-même, enfin je sais pas comment dire, c'est l'avantage de l'auto-enquête en collectif, c'est qu'en fait on le fait sur nous, mais en tout cas pas en tant qu'individu, en tout cas voilà. Bon, en tout cas nous on va boire des coups à côté, donc si on voulait continuer on peut continuer, voilà.